La voix des élèves.
Des infos et des prêts.
La voix des élèves. Le mardi 27 de mars 2012, le lycée Saint-Cerné, les élèves de la classe de terminale L, option l'histoire des arts, et les élèves de la classe d'école, mon francophone, vous invite à découvrir avec nous l'histoire de l'hôtel de Berry. Suivez-nous pour la visite.
Alors Jean du Barry, en fait, c'était un marchand qui a vécu au XVIIIe siècle. Et en fait, il faisait beaucoup de petites affaires pour essayer de se débrouiller, pour gagner de l'argent comme il pouvait. Et il a eu une idée, en fait, c'est à la mort de la maîtresse de Louis XVI, qui était un roi de France, il s'appelait Madame de Pompadour, est décédée. Donc du coup, le roi était vraiment... Louis XV. Et le roi était... Le roi était vraiment très triste, donc du coup il fallait trouver une nouvelle maîtresse, une nouvelle femme pour le roi. Et donc du coup lui il a trouvé une femme qui s'appelait Jeanne Bécu et qui vendait des rubans et qui était vendeuse. Et donc du coup il a eu l'idée de la marier avec le roi, sauf qu'il fallait lui donner un titre de noblesse, un nom pour qu'elle puisse se marier avec lui, parce que sinon c'était une vendeuse quoi. Voilà, pour devenir sa favorite, pardon. Pas pour devenir la reine, mais pour devenir sa maîtresse, quoi. Et donc, il a eu l'idée de la marier avec son frère, qui s'appelait Guillaume du Barry. Et du coup, elle a eu un nom noble, et elle a pu devenir la nouvelle favorite, la nouvelle femme du roi. Et ensuite, il s'est fait donc beaucoup d'argent, grâce à ce... Toute la famille du Barry a été vraiment, vraiment enrichie.
Il a acheté des maisons.
Qu'il a transformé en hôtel en 1776. Dans l'enceinte du lycée Saint-Cernin. Et nous voyons l'arrière du bâtiment qui est en briques rouges. Et donc à l'endroit au-dessus du premier étage, autrefois il y avait une terrasse qui permettait... d'avoir un accès, une vue sur le jardin. Voilà, jardin qui était d'ailleurs tout à fait atypique.
Le jardin. Alors voilà, en fait, il faut imaginer qu'il y avait un grand jardin, donc de plusieurs hectares. Vous voyez, à Versailles, Marie-Antoinette, elle s'est fait construire un petit Trianon complètement artificiel, comme si elle était dans une petite ferme avec des animaux, voilà. Voilà, le hameau un peu. Et en fait, les aristocrates de cette époque, c'est ça, ils avaient une petite passion comme ça pour le côté un peu plaisant de la ferme et des vieilles ruines. Et donc, dans un jardin, il recréait cette ambiance avec des petites fermes, des moutons, comme si voilà, ils jouaient voilà comme ça et ils avaient l'impression.
Il pleut bergère, rentre tes blancs moutons, allons dans la chaumière, bergère vite allons.
Rentre tes blancs moutons. Et donc du coup, on appelle ça des folies. Ou des fabriques.
Voici venir l'orage, voici les fleurs qui
luisent. Des amoureux, une jungle, des oiseaux, des oiseaux exotiques.
Ah, c'est un automate qui vient ouvrir la porte.
Le curé, oui, le curé
chapelle.
Automate.
Voilà.
Il paraît qu'il y avait un gros ours quelque part qui signifiait l'entrée du jardin. Et d'après les témoignages de l'époque, ce jardin n'avait plus rien de naturel. C'était une vision de la nature et que tout était artificiel.
Mais en fait, on avait lu des textes d'anglais, en fait, notamment, qui étaient venus, qui étaient vraiment critiques, les anglais, à l'égard de toute cette richesse et critique du coup avec humour, un peu un humour anglais, le fait qu'on veut faire un jardin alors que naturel, alors qu'il n'y a rien de naturel, tout est artificiel, tout est et que c'est plus de la nature et que c'est trop d'opulence, trop de richesse. Voilà. C'est faux.
Témoignage de Arthur Jung lors de sa visite en 1787 qui dit « Quant au jardin, il est en dessous de tout mépris, si ce n'est comme exemple des efforts où peut entraîner l'extravagance. Dans l'espace d'un acre sont entassées des collines de terre, des montagnes de carton, des rochers de toile, des abeilles, des vaches et des bergères. Des moutons de plomb, des singes et des paysans, des ânes et des hôtels en pierre, des perroquets et des amandes de bois, des moulins à vent, des chaumières, des boutiques et des villages, tout excepté la nature. »
Donc ça, ce jardin de plusieurs hectares, il correspond à là où on voit les bâtiments actuellement de votre lycée, c'est ça ?
Voilà, du coup encore après, puisqu'il n'y avait pas les bâtiments à cette époque-là. En fait, tout ça, ça a été rajouté, même le bâtiment là de l'administration, ça a été rajouté quand c'est devenu un lycée pour jeunes filles, à l'époque des Bonnes Sœurs, les Bénédictines.
Maintenant, rentrons dans l'hôtel du Barry.
Alors, on se trouve dans la cage d'escalier. Donc, c'est un escalier très grand qui montrait dès l'entrée la richesse de la famille du Barry. Donc, dans les murs, vous pouvez voir des trompe-l'œil. Vous avez des allégories des arts. C'est-à-dire que c'est des figures qui représentent la peinture, la poésie, tous les arts. Ensuite, il y a des motifs récurrents, c'est-à-dire il y a toutes les guirlandes que vous voyez, des guirlandes de fleurs, les trophées. Il y a des instruments de musique, des oiseaux. C'est des motifs qui étaient aimés à l'époque. Ça reproduit l'architecture classique, puisque c'était une période à laquelle on revenait à cette architecture classique. Donc,
je pense à la Grèce.
Les redécouvertes de la Grèce, antique. La rampe, c'est du fer forgé. Donc en fait, elle a toute une histoire parce que quand on a réinvesti l'hôtel du Barry, il n'y avait plus de rampe. Et elle a été redécouverte chez un antiquaire toulousain. Et on s'est rendu compte qu'elle coïncidait. Et donc voilà, c'était la magie de la restauration de l'hôtel du Barry. C'est ça.
Vendue par les bénédictines qui avaient été chassées de l'hôtel du Barry et qui, avant de quitter les lieux, avaient essayé de tirer profit du maximum en vendant des portes sculptées, en vendant peut-être du mobilier. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont disparu à ce moment-là, au moment de l'éviction des bénédictines.
Dans le salon blanc.
Alors en fait, vous voyez à côté de vous, en arrière-plan là, des bas-reliefs. On appelle ça des grotesques parce qu'on avait trouvé des exemples comme ça de ces motifs dans une grotte à Rome, dans la villa de Néron, qui avait été enterrée. Et donc c'était comme une grotte. C'est pour ça, grotesque. Ça a été recouvert de feuilles d'or à l'époque de Jean du Barry. Puis après, ça a été perdu durant la Révolution française. Elles ont été détruites. Toute la partie où vous voyez les femmes qui dansent sont des motifs de Bacchante. C'est un personnage mythologique très connu en Grèce. Ce sont des femmes qui suivent le convoi de Dionysos et qui, à force de boire du vin, sont ivres. Et donc là, vous les voyez, elles dansent. Avant aussi, il y avait des miroirs un peu partout au-dessus de la cheminée et des portes. Ça faisait que la lumière était très reflétée et donc faisait que les feuilles d'or se voyaient mieux. Voilà, pour montrer la richesse.
Il
Il y avait aussi un mobilier très très riche. Donc là, on n'a plus rien, mais il y avait des canapés, il fallait imaginer très décoré. Alors ensuite, donc le plafond, il a été peint par le peintre De Rome. Ça représente un épisode de la mythologie grecque. C'est l'enlèvement de Flore par Zéphyr. Ça plaisait beaucoup là aussi aux aristocrates. Bon, déjà de revenir sur les mythes. Et puis voilà, c'était un thème, un sujet très léger. L'amour, le printemps, les fleurs. Et donc pour l'ambiance, parce qu'on faisait des fêtes ici, on s'amusait, on se divertissait. Donc pour l'ambiance qu'il y avait ici dans cette pièce, ce sujet de mythe était vraiment sympa. Alors en fait, quand les bénédictines, les bonnes sœurs catholiques ont réinvesti le lieu, elles ont fait ici de cette pièce un internat. Les gens venaient dormir, les étudiantes venaient dormir, comme c'était un lycée que pour jeunes filles. Et elles ont trouvé cette scène un peu trop frivole. Donc, du coup, elles ont recouvert les draps, le plafond, et on ne voyait que... Enfin, c'est l'anecdote, hein, c'est la petite histoire. On ne voyait que la tête de Flore, et on disait que c'était l'Assomption de la Vierge, voilà. On disait que c'est parce que... Voilà, mais on racontait pas du tout la véritable histoire, qu'elle était en fait enlevée, elle succombait au charme de Zéphyr. Voilà.
On a une belle vue sur un postérieur. Hein, ici,
voilà, aussi. Alors après, voilà, exactement. Donc après, vous voyez les trois grâces, donc voilà, dont l'une d'elles, vous voyez ses fesses. Donc là aussi, voilà, ça en dit long sur ce qu'on faisait dans ces pièces. On s'amusait, voilà.
Des fois, il y a certaines parties du mur, on peut mettre le doigt dedans parce qu'en fait, c'est du faux, hein, c'est souvent du plâtre camouflé, teinté façon bois, teinté façon marbre, mais tout ça, c'est un peu comme un décor hollywoodien. Hein. Et c'était un espace de représentation pour quelqu'un qui voulait, on dirait aujourd'hui, frimer. Et avoir à Toulouse pratiquement le seul hôtel de style parisien de la région. À Toulouse, c'est pratiquement le seul hôtel qui ressemble beaucoup aux hôtels particuliers de Paris de la fin du XVIIIe. C'est pour ça aussi que c'est une pièce de patrimoine, puisqu'il n'y a pas l'équivalent, si ce n'est le petit château qu'avait fait construire Guillaume à la Rainerie. Le petit pavillon de la Rainerie, qui d'ailleurs a permis la restauration des stucs de Du Barry, puisque Guillaume Du Barry avait employé les mêmes décorateurs que son frère. Et donc, il y a les mêmes décors à la Rainerie, qui eux n'avaient pas subi les outrages post-révolutionnaires. Parce que là, les bacchantes avaient été carrément massacrées, comme jugées inartistique ou trop symptomatique de l'ancien régime dont on ne voulait plus entendre parler. Les commissaires qui déterminaient si c'était artistique ou pas avaient exercé une espèce de vengeance en laissant massacrer les stucs de Julia.
Ici, Jeanne Bécu, hein. Elle n'a jamais habité à Toulouse. Elle est directement à Paris, donc elle n'a jamais habité à Toulouse. Faut arrêter le cliché, la comtesse du Barry, le foie gras comtesse du Barry. Non, elle n'est jamais venue ici. Elle n'a jamais vu l'hôtel. Elle est allée tout de suite à Paris pour rencontrer le roi.
Donc, elle a connu la même fin tragique parce qu'en fait, du Barry, Jean du Barry, lui, donc il y a la Révolution française. Donc on poursuit un peu tous les aristocrates, toute la société de privilèges, et donc lui il va être guillotiné, c'est-à-dire on va lui couper la tête. C'était ce qu'on faisait en France, hein, la peine de mort en France, donc sur la place du Capitole. Et Jeanne Bécu, enfin Jeanne du Barry, elle donc elle réside à Paris, sauf que elle va parler un peu trop fort de sa richesse qu'elle a conservée et elle va connaître la même fin tragique.
Oui. Disons, elle aura bénéficié quand même d'un petit château à Louveciennes où elle continue à mener grand train malgré la mort de Louis XV, hein, elle était quand même bien vue d'un certain nombre d'aristocrates, et puis elle avait beaucoup de qualités personnelles, ce qui fait qu'elle ouvre sienne, elle était même appréciée de la population. Mais bon, elle va avoir la bêtise de signaler qu'on lui a volé ses bijoux en pleine révolution, où les gens avaient peut-être d'autres valeurs à défendre que des problèmes de cambriolage. Et donc, elle va se faire quelque part remarquer et donc arrêter et guillotiner dans des conditions assez affreuses qui mettront un peu fin à la frénésie de guillotinage de l'époque, d'ailleurs, puisque tout le monde aura été ému par le guillotinage, si on peut dire ainsi, de Madame du Barry, la comtesse.
Aujourd'hui, comment ça se passe pour essayer de conserver ce patrimoine et le présenter au public? Qu'est-ce qui se passe?
C'est toute la question un peu qui est engagée avec la mairie, en fait, pour le devenir de l'hôtel. Donc le lycée s'investit beaucoup pour le garder parce qu'on fait énormément d'activités. Mais déjà, rien que la journée du patrimoine, on fait visiter. Ça tient vraiment à cœur à tout le lycée, les lycéens comme l'administration, de garder ce bâtiment dans l'enceinte, enfin comme appartenant vraiment au lycée. Et du coup, le problème, c'est que les restaurations coûtent vraiment très cher. Là, on a réussi déjà à restaurer une partie des grotesques, mais il faudrait, voilà, les feuilles d'or. On sait que ça représente beaucoup d'argent. Maintenant, voilà, le problème, c'est que la mairie aussi, enfin, peut-être d'autres vues sur ce.
Le conseil régional, la mairie veulent s'emparer, entre guillemets, du bâtiment. Et eux peuvent payer les restaurations, mais pas le lycée seul. Donc, il faut engager une campagne.
Les amis de Du Barry, voilà. Mais tout le monde peut adhérer à l'association. Nous, dans la classe, on est beaucoup à avoir adhéré. C'est 1 € de participation quand on est lycéen. Et voilà. En fait, il faudrait vraiment beaucoup de monde, pas forcément pour assister à toutes les réunions, mais au moins pour, si vous trouvez, voilà, si ça a de l'importance pour vous que ce bâtiment reste dans le lycée, juste pour donner un peu plus de poids, une parole un peu plus conséquente pour dans les dialogues avec la mairie, pour dire que c'est important pour le lycée.
Plus il y aura de monde, plus on aura de poids et on pourra exprimer des revendications pour le bâtiment.
La voix des élèves.
Cette émission a été réalisée dans le cadre de l'atelier Radio Girafe proposé par l'association Gudule et Galipette. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification.
Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.